Voilà, il y a de cela un mois maintenant, environ, nous redécouvrions ensemble, dans l'émerveillement, je parle pour moi, Christ lui-même, dans une fonction admirable, celle de Rédempteur. Et si vous avez été attentif, le mot Rédempteur est revenu à plusieurs reprises dans les chants que nous avons essayé d'interpréter ce matin. Ce n'était évidemment pas un hasard. L'occasion nous était ainsi donnée de redéfinir le sens du mot Rédempteur. Celui qui, moyennant un versement, le versement d'une certaine somme, s'approprie le peuple de son choix et l'affranchit. D'où ce résumé que nous proposions de l'œuvre de Christ en tant que rédempteur, rachat et délivrance d'un peuple pour Dieu. Et notre étude de nous conduire alors à l'examen de thèmes tels que la raison d'être de ce rachat, son promoteur et son prix. Restaient deux questions qu'il nous parut préférable alors de renvoyer à plus tard, à aujourd'hui, donc, la question des cibles d'une part et celle des conséquences d'autre part de cette œuvre glorieuse de rédemption. Ce sont ces deux questions qui retiendront notre attention ce matin. Et pour commencer donc, les cibles de l'œuvre rédemptrice de Christ, ces cibles, qui sont ceux que Dieu a finalement rachetés en Jésus-Christ. Dans un souci de fidélité, nous reprendrons ici non pas la, mais les trois réponses qu'apporte à cette importante question la Bible. Première réponse, tous les hommes, ou les humains, comme on dit aujourd'hui. Tous les hommes, dites-vous, parfaitement tous les hommes. Écoutez plutôt ce que Paul, l'apôtre, écrit à ce sujet dans sa première lettre à Timothée. Il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Aucun doute n'est donc permis, si Christ est mort à la croix, c'est afin de racheter tous les hommes, je dis bien tous les hommes. Mais peut-être pas au sens où certains l'entendent. Car que faut-il comprendre ici par tous les hommes? Tous les hommes sans exception? Impossible. Trop de textes affirment le contraire. Et je ne parle pas du triste constat que chacun peut faire aujourd'hui en regardant simplement autour de lui tous les hommes, c'est évident, n'ont pas été affranchis par Christ, qui les aurait alors soustraits de manière décisive à l'emprise du péché. Non, tous les hommes. Nous ne pouvons pas entendre cette formule comme signifiant tous les hommes, sans exception. Mais alors, à quoi nous renvoie le « tous » de notre texte? C'est, me semble-t-il, une glorieuse vision du livre de l'Apocalypse qui nous permettra le mieux d'interpréter justement ce qualificatif. Je vais citer ici, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, les versets 6 à 10. « Alors, rapporte l'apôtre Jean, je vis au milieu du trône un agneau debout comme offert en sacrifice. Quand il, cet agneau, prit le livre, les quatre êtres vivants, résumé de la création, et les 24 anciens, représentant l'Église, se prosternèrent devant l'agneau. Il s'agit d'une vision, bien sûr. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Coupes d'or qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Pourquoi ? car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Autrement dit, lorsque nous lisons de cette œuvre rédemptrice de Christ, qu'elle a touché tous les hommes, nous croyons qu'il faut comprendre qu'elle a touché dans le monde des hommes et des femmes, bien sûr, aussi, appartenant non pas à un seul peuple, mais à tous les peuples. C'est en ce sens, et en ce sens seulement, que la rédemption est véritablement universelle. À la question « Qui sont ceux que Dieu a finalement rachetés en Jésus-Christ ?», nous répondons donc d'abord des hommes et des femmes issus de toutes les nations de la terre. Et un rassemblement comme celui de ce matin en est la preuve magnifique et heureuse. Mais à cette première réponse, il nous faut ajouter cette deuxième que nous dicte aussi bien l'Écriture. Ceux que Dieu a finalement rachetés en Jésus-Christ, tous les croyants. Tous les croyants, c'est-à-dire tous ceux qui non seulement ont reconnu en Jésus le seul rédempteur qui soit, mais encore ont accepté d'être mis au bénéfice de son œuvre rédemptrice. Autrement dit, ont accepté d'être rachetés par lui pour Dieu. Car du fait que Dieu est l'auteur premier de la rédemption, il ne s'ensuit pas que l'homme ait ici une attitude purement passive. Il lui faut accueillir le don de Dieu. L'action divine n'exerce son efficacité que pour ceux qui veulent bien y consentir, par la foi. D'où ce pressant appel que nous nous devons d'adresser aujourd'hui à chacun. Nous vous en supplions, au nom de Christ. Ce sont, à quelques détails près, les propos, les termes même utilisés par l'apôtre Paul. Nous vous supplions, au nom de Christ, laissez-vous racheter pour Dieu. Un appel solennel s'il en est, et dont on ne peut exclure, a priori, qu'il s'adresse tout particulièrement à l'un ou à l'autre, ici présent ce matin. Laissez-vous racheter pour Dieu. Que les choses soient claires, aussi longtemps que nous refuserons de nous laisser gagner pour Dieu et pour son service par Christ, nous continuerons non seulement d'appartenir à l'adversaire, mais encore de le servir. Et le risque restera immense que son monde, celui d'une nuit sans fin, soit un jour et pour toujours le nôtre. Acceptons donc, si nous ne l'avons pas déjà fait aujourd'hui, d'être repris pour Dieu par Christ. Alors seulement nous pourrons dire avec assurance, ayant été rachetés pour Dieu par le sang de Jésus, nous appartenons au Seigneur, et rien, ni personne, ne pourra plus jamais nous séparer de son incomparable amour. À la question, qui sont ceux que Dieu a finalement rachetés par Christ, pour faire d'eux son peuple, nous apportons donc cette deuxième réponse, tous les croyants. Mais pour ne rien omettre à ces deux premières réponses, force nous est d'en ajouter une troisième, celle que nous souffle encore et toujours la parole de Dieu. Ceux que Dieu a finalement rachetés en Jésus-Christ, une multitude. Une multitude. Alors de qui tenons-nous cette information capitale ? Eh bien de Jésus lui-même. Jésus qui, s'adressant un jour à ses disciples, qui voulaient savoir lequel d'entre eux serait le plus grand dans le royaume des cieux, déclara, je cite, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et le terme choisi ici par Jésus est sans ambiguïté. C'est en réalité une foule innombrable, que Dieu a voulu s'approprier par Jésus-Christ. Laissons donc de côté une bonne fois nos visions par trop étriquées de ce peuple immense au sens premier du terme, que l'on ne peut pas compter, immense, que le Fils a racheté pour son Père. Je regardais, rapporte encore l'apôtre Jean, et je vis quoi ? Une foule immense que personne ne pouvait compter. Qu'il est bon de savoir que cette foule dépassera et de loin les limites de notre dénomination. Que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, tiens, on y revient, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Une foule immense, dit Jean, que nul ne pouvait dénombrer. Des myriades de myriades et des milliers de milliers, écrivait-il un peu plus tôt. Plutôt encourageant, non ? Le moins qu'on puisse dire est que nous ne serons pas seuls. Voilà donc pour les cibles de la rédemption. Des hommes et des femmes issus de tous les peuples, tous ceux en réalité, quelle que soit leur origine, qui auront, à un moment donné de leur existence, accepté d'être mis au bénéfice de cette œuvre grandiose accomplie par Christ en leur faveur. Autrement dit, la multitude de tous les croyants, de tous les temps. Alors le moment est venu de toucher à la seconde des deux questions laissées en suspens jusqu'à ce matin. Celle des conséquences pour les affranchis du Seigneur de leur rédemption. Les conséquences. Nous en disons en gros trois ce matin. Une appartenance, une condition et une consécration nouvelle. Une appartenance nouvelle, c'est pour tous les croyants la première conséquence de leur rachat par Christ. Conséquence majeure, puisqu'elle fait d'eux rien de moins que la propriété de Dieu. Car la rédemption, nous l'avons dit et redit, c'est d'abord cette intervention souveraine par laquelle Dieu, dans sa grâce, rachète et donc s'approprie tout un peuple pour en faire son peuple. À tous ceux qui, du temps de Moïse déjà, avaient entendu sa voix et gardaient son alliance, le Seigneur annonçait « Je vous délivrerai et je vous rachèterai. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples. » La rédemption est avant tout acquisition, prise de possession par Dieu, d'une multitude qui jusque-là lui était étrangère, pour ne pas dire hostile. C'est pourquoi l'apôtre Paul en particulier n'hésite pas à la présenter comme un achat, tout simplement, du Seigneur, un achat. Non qu'il veuille réduire la rédemption à une simple transaction commerciale réglée par la loi de l'équivalence ou de la compensation. Mais il entend signifier que les croyants sont devenus rien de moins que la propriété personnelle de Dieu. Et ce, en vertu d'un contrat dont toutes les conditions ont été remplies. À commencer par celle-ci que nous avons déjà signalée, une somme, si je puis dire, la somme exigée a été versée. Christ a payé le prix du rachat, au moment précis rappelé un peu plus tôt au cours de ce culte, où il a offert sa vie parfaite, en rançon, je cite, pour beaucoup. Première conséquence donc pour les croyants de l'œuvre rédemptrice de Christ, ils appartiennent, nous appartenons désormais à Dieu et à lui seul. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour ces croyants ? Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Deux choses au moins. D'abord, que personne ne peut plus les revendiquer. L'adversaire, notamment, n'a plus le moindre droit sur eux. Car Dieu a payé l'intégralité de la rançon. Il les a donc rachetés entièrement et définitivement. Et ce qui est vrai pour l'adversaire l'est également pour les croyants eux-mêmes, pour nous-mêmes, faut-il le rappeler. D'où cette question posée aux chrétiens de Corinthe par l'apôtre Paul, ne le savez-vous pas? Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Ensuite, cela signifie pour les croyants que personne ne peut plus les reprendre. Dieu veille sur eux. Et il veille sur eux avec une attention d'autant plus soutenue qu'il représente pour lui un bien inestimable. N'a-t-il pas été jusqu'à donner son propre fils pour les acquérir? Les racheter, et nous avec eux donc, n'avons rien à craindre. Comment Dieu ne nous garderait-il pas jusqu'au bout? Nous, pour qui il a payé un si grand prix, je reviens sur l'expression lue un peu plus tôt, « Vous êtes ma part personnelle, dit le Seigneur, vous êtes ma part personnelle. » Et quiconque touchera à l'un ou l'autre d'entre vous, touchera en réalité à la prunelle de mon œil. Relisez le deuxième chapitre de la prophétie de Zacharie. Attention! Quiconque touchera à l'un d'entre vous touchera à la prunelle de mon œil. Les croyants, on le voit, sont aux yeux de Dieu le plus précieux des trésors. Et à ce titre, font l'objet de la part du Seigneur en personne, font l'objet de la part du Dieu, du Seigneur lui-même en personne, d'une protection rapprochée de tous les instants. N'aie pas peur, dit l'Éternel à son peuple, n'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens, tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Ces textes sont extraits de la prophétie d'Ésaïe. Moi, dit encore le Seigneur, je ne t'oublierai pas. D'autres t'oublieront peut-être, ta mère t'oubliera peut-être, moi pas. Moi, je ne t'oublierai pas. Regarde, je t'ai gravé sur mes mains. Les montagnes peuvent s'écarter, les collines peuvent chanceler, mon amour ne s'écartera pas de toi. C'est le Seigneur qui parle. Que les rachetés ne s'inquiètent donc pas, ils possèdent en Dieu un sûr gardien, d'où cette assurance merveilleuse qu'a pu leur offrir celui-là même auquel le Père les a confiés pour un temps, Jésus. Vous ne périrez jamais et personne ne vous ravira de ma main. Mon Père est plus grand que tout et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose à la main de mon Père. Voilà pour la première conséquence de l'œuvre rédemptrice accomplie par Christ. Nous, ces rachetés, constituons désormais le trésor de Dieu. Incroyable, mais vrai. Venons-en maintenant à la deuxième conséquence. Nous l'avons dit, une condition nouvelle. Car la rédemption inclut ceci également. Le passage, pour ceux qui en sont l'objet, d'un état à un autre. Pour être plus précis, de l'état d'esclave à celui d'hommes et de femmes libres. La rédemption, en effet, n'est pas seulement rachat. Elle est aussi, nous avons eu l'occasion de le montrer plus tôt, délivrance, libération, affranchissement. Maintenant, pour bien comprendre ce deuxième effet de l'œuvre rédemptrice de Christ sur les rachetés, il est nécessaire de rappeler brièvement ce que la Bible dit de la condition humaine. Tous les hommes, et donc les femmes, naissent captifs déjà. Esclaves. Alors de quoi ? Du péché, dit l'Écriture. C'est-à-dire sous la domination du péché, depuis la naissance. Incapables donc par nature de s'orienter vers autre chose que le mal aux yeux de Dieu. Tel est le verdict douloureux de l'Écriture et donc de Dieu lui-même sur la race humaine dans son ensemble. Un verdict sévère, certes, mais qu'il nous faut accepter sans réserve si nous ne voulons pas que nous échappe non seulement le sens, mais encore le bénéfice même de l'œuvre rédemptrice de Christ. Une œuvre rédemptrice qui, dans ce contexte, a consisté pour le Fils à faire tout ce qu'il fallait pour nous soustraire, en même temps que l'ensemble des croyants, à l'empire du péché. Et donc, du même coup, à celui de son salaire, la mort. Nous ne reviendrons pas ici sur ce que Christ a dû faire pour assurer cet extraordinaire affranchissement de tous les fidèles. Nous concentrerons plutôt notre attention sur les conséquences pour les véritables disciples de son intervention libératrice. Quelles sont-elles ? Nous en distinguerons deux. Première conséquence, les croyants ne sont plus soumis à la juste rémunération du péché. Je veux dire, ils ne sont plus soumis à la mort. Paul nous parle d'une malédiction, la malédiction de la loi de Dieu qui pèse sur tous les pécheurs. Eh bien, écrit l'apôtre aux Galates, Christ nous a rachetés. Rachetés de quoi ? De la malédiction de la loi, précisément. Comment ? En devenant, dit-il, malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. En d'autres termes, Jésus, en montant sur la croix comme il l'a fait, chargé de toutes nos fautes, s'est tout simplement condamné à régler lui-même le prix de notre péché. Et ce prix, il l'a effectivement réglé, intégralement. Lorsqu'au terme de souffrance que nul ne pourra jamais mesurer vraiment, il est mort, frappé par la juste colère de Dieu. Conséquence de ce geste stupéfiant, il n'y a plus de malédiction. Ailleurs, Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comme l'a si bien résumé Jésus lui-même, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Pour les croyants, donc, la crainte de la mort a disparu. Celui qui croit en moi, dit encore Jésus, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voilà pour la première conséquence de l'œuvre libératrice du Seigneur. La victoire sur la mort pour tous ses disciples. Une mort que Paul, du coup, va jusqu'à narguer. Lorsqu'avec une certaine ironie, il pose la question « Mort, où est ta victoire ?» Tu croyais avoir gagné, où est ta victoire ? Venons-en maintenant à la seconde. Les croyants ne sont plus soumis à la loi implacable du péché. Cette loi qui, jusqu'à leur rédemption précisément, dictait immanquablement leur comportement. À cette loi terrifiante, les croyants ont été soustraits par Christ, tant et si bien qu'ils sont maintenant capables de faire autre chose que le mal, en attendant le jour où, ayant été complètement et définitivement libérés du péché, ils ne pourront plus faire autre chose que le bien. Vous étiez esclaves du péché, écrit Paul aux chrétiens de Rome, mais maintenant vous avez été libérés du péché. À quel moment ? Au moment précis où Jésus, le Christ de Dieu, est mort. Alors, nous dit encore l'apôtre, notre être pécheur a été mis à mort avec lui. afin, poursuit-il, que notre être pécheur soit détruit et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Fin de citation. Le péché ne règne plus sur lui. Comprenons bien ceci. Quelqu'un a été défait à la croix. Le prince du mal. Car en mourant, Christ l'a complètement dépouillé, nous dit l'Écriture, de son pouvoir sur les croyants. Cela ne signifie pas, bien entendu, et j'allais dire malheureusement, que les rachetés, que nous ne péchons plus. Cela signifie simplement que le péché ne fait plus la loi chez nous. Une présence nouvelle, l'Esprit même de Dieu les habite. Et cette présence divine, non seulement les rend capables, enfin, de résister au péché, mais encore leur donne la volonté et la capacité de faire ce que Dieu attend d'eux. Lorsque vous étiez esclaves du péché, explique encore l'apôtre Paul, quel fruit portiez-vous ? Aujourd'hui, vous en avez honte, car leur aboutissement, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché, vous portez les fruits qui conduisent à la sanctification. Et leur aboutissement, c'est quoi ? C'est la vie éternelle. Voilà pour la deuxième conséquence de l'œuvre libératrice du Seigneur. Pour tous ses disciples, la victoire sur le péché. Un péché qui non seulement ne triomphe plus constamment, mais encore recule chaque jour un peu plus dans leur vie, en attendant le moment où il en sera enfin complètement et définitivement balayé. Alors, la rédemption des croyants sera vraiment achevée. Et on pourra parler enfin de l'absolue liberté des rachetés à l'égard du péché. Mais il y a une troisième et dernière conséquence pour les croyants de l'œuvre rédemptrice du Christ dans son ensemble. Une consécration nouvelle. Une consécration nouvelle. Car si Dieu rachète les croyants, c'est aussi dans ce but, faire d'eux un peuple qui lui soit entièrement consacré. Libérés du péché, écrit Paul aux Romains, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Esclaves de Dieu. Car, explique-t-il à Tite, son jeune collègue, elle s'est manifestée la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Il, c'est-à-dire notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, s'est donné lui-même pour vous, afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne, qui soit plein d'ardeur pour les belles œuvres. Et l'apôtre Pierre d'insister auprès des croyants, vous qui avez été rachetés, vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis. Et pourquoi cela ? Pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui jadis n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Il ne fait donc aucun doute que la rédemption est aussi une œuvre de consécration. Une intervention par laquelle Dieu s'attache un peuple, pour que celui-ci le serve et en le servant, le glorifie. Ce que Christ a racheté pour Dieu, ceux-là sont immédiatement comme enrôlés pour son service. C'est d'ailleurs en cela peut-être qu'ils se démarquent le plus nettement du reste des hommes. Eux servent le Seigneur. Eux servent le Seigneur. Autrement dit, à la différence des autres, eux se préoccupent sincèrement, réellement, durablement, de soutenir de leur mieux la réputation de Dieu dans le monde en accomplissant chaque jour ces œuvres belles pour lesquelles ils ont été mis à part. Il nous faut conclure Peut-être vous êtes-vous déjà demandé ce matin, suis-je moi aussi de ceux que Christ a rachetés au sens où cela a été dit il y a un mois et ce matin encore. Et vous n'avez pas pu répondre avec assurance. Permettez-moi de vous proposer alors ce petit test, tout simple, auquel vous pouvez vous soumettre maintenant. Il ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps. Après vous être examiné sans complaisance, essayez de répondre honnêtement à cette question. Pour vous-même, à quoi ou à qui ma vie a-t-elle pour l'essentiel été consacrée jusqu'ici? À quoi ou à qui ma vie a-t-elle pour l'essentiel été consacrée jusqu'ici? Honnêtement. Si vous avez pu répondre sans hésiter et sans rougir non plus, Dieu, sa maison, alors sachez que vous appartenez certainement à ce peuple déjà immense que le Fils, pour son Père, a racheté au prix de son sang versé. Et vous n'avez donc plus rien à craindre. Maintenant, si vous avez hésité, ou plus grave, si vous avez dû répondre autre chose que Dieu, mais vous étiez honnête, vous ne pouvez pas faire autrement. Alors permettez-moi de m'adresser à vous plus particulièrement maintenant pour vous supplier avec tous les apôtres, n'endurcissez plus votre cœur. Écoutez plutôt l'appel de Dieu qui vous invite, pendant qu'il en est encore temps, aujourd'hui est encore un jour de grâce, à vous abandonner totalement à Christ, pour que lui, le Rédempteur, après qu'il vous aura racheté par sa mort, vous saisisse et fasse de vous les plus heureux des hommes, des femmes. Alors heureux pourquoi ? Heureux d'abord parce qu'appartenant désormais et pour toujours au Dieu de grâce et d'amour. Heureux ensuite parce que libéré à jamais de la crainte de la mort et de l'empire du péché. Heureux enfin parce qu'entièrement dévoué au service de Dieu et par conséquent assuré de recevoir bientôt le salaire, si je puis dire, de cette consécration. Je veux dire la vie, la vraie.